RFI, il est 14h10 à Paris. C'est l'heure de retrouver Céline Pellarin pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques.
Bonjour Chantal Leroux, bonjour à toutes et à tous. Colette Capriles fait partie de l'équipe de l'opposition vénézuélienne qui négocie en ce moment avec le gouvernement. Les discussions doivent résoudre la crise politique, économique et sociale qui déchire le pays. Alors que l'année électorale sera décisive, vous entendrez son interview dans quelques secondes. La revue de presse sera avec vous, Romain Lemaresquier. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
On s'intéressera à d'autres négociations, celles entre le gouvernement colombien et la guérilla de l'ELN, qui sont suspendues. Une série d'attaques, en effet, hier, a été attribuée au dernier mouvement armé de Colombie. Au Pérou, le nouveau gouvernement du président Kuczynski ne fait pas l'unanimité. Les ennuis du chef de l'État continuent. Des manifestations anti-impunité ont eu lieu dans le pays. Enfin, nous serons avec Franz Duval du Nouvelliste. Sa chronique est consacrée à Haïti qui se prépare à commémorer demain les 8 ans écoulés depuis le séisme qui a ravagé le pays et causé la mort de 200 000 personnes. 2010-2018, qu'est-ce qui a changé? Où en est la reconstruction? Des mesures ont-elles été prises pour anticiper les prochains tremblements de terre et limiter le nombre de victimes? Les conclusions, vous l'entendrez, ne sont pas très optimistes. Et comment sortir de la grave crise économique, sociale et politique que traverse le Venezuela? La question est sur la table. Aujourd'hui, une table ronde en République dominicaine où reprend le processus de dialogue entre le gouvernement socialiste du président Nicolas Maduro et la MUD, la coalition de l'opposition vénézuélienne. Colette Capriles fait partie de l'équipe technique de la MUD, un groupe d'experts qui conseille les représentants de l'opposition durant ces négociations et elle répond à Véronique Guémard.
Colette Capriles, est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de ce dialogue entre le gouvernement et l'opposition, puisqu'on n'en est pas à la première tentative?
Il y a une grande différence, parce que c'est justement le fait qu'il s'agit maintenant d'une négociation soutenue par la communauté internationale. Ce n'est pas un simple dialogue. On est dans un processus tout nouveau. Il y a eu en effet plusieurs rencontres entre l'opposition et le gouvernement dans les deux dernières années, sans résultat, mais cette fois-ci, les conditions sont absolument différentes. Premièrement, c'est la catastrophe économique que le gouvernement a provoquée en détruisant l'industrie pétrolière, où la production est tombée à des niveaux de 1980. Toute cette situation catastrophique a permis que les sanctions établies par les États-Unis, le Canada et l'Union européenne soient très efficaces qu'au moyen de pression sur le gouvernement. Donc, nous avons un gouvernement qui est nécessairement assis, disons, dans cette table de négociation. De toute façon, on est bien sûr très sceptique sur les résultats parce que il n'y a pas un message clair du gouvernement autour des issues qui sont en jeu ici.
Alors justement, quel est l'objectif de ce dialogue? Qu'est-ce qui se négocie concrètement?
Les demandes de l'opposition ont plusieurs aspects importants pour la normalisation enfin, du pays. Il y a une partie des points exigés par l'opposition qui touche la question humanitaire des programmes internationaux d'aide. Et de l'autre côté aussi, il y a le travail de libération des prisonniers politiques. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement un changement de régime. Ce que l'opposition veut, c'est de retrouver des conditions pour le retour de la démocratie au Venezuela. Nous sommes sous une pression très forte parce que Maduro a menacé d'appeler aux élections présidentielles le plus tôt possible.
Il y a une partie de l'opposition qui critique cette reprise de dialogue, mais il y a une partie aussi de la population qui soupçonne le gouvernement de chercher à gagner du temps.
La délégation politique de l'opposition est composée par des députés élu démocratiquement à l'Assemblée nationale. C'est vrai, il y a une minuscule partie de l'opposition sans représentation parlementaire qui rejette toute voie de négociation avec le régime. Également, c'est vrai qu'une partie importante de l'opinion publique est aussi sceptique sur le processus, ce qui semble assez logique, hein, puisque la radicalisation du régime envoie en permanence le message de ne pas accepter l'alternance démocratique. Donc le dialogue, l'importance, c'est justement assurer les élections libres et justes en évitant la possibilité d'une élection présidentielle anticipée qui ne serait pas du tout reconnue par la communauté internationale.
Et justement, donc, le rôle que joue la communauté internationale, quand on dit communauté internationale, c'est qui?
La communauté internationale a une fonction de médiation, de facilitation du processus avec la présence des ministres d'extérieur du Mexique, du Chili, de la Bolivie, du Nicaragua. Ce sont ces ministres qui organisent les points à discuter et qui ont produit une première version d'un possible accord. Et cette question va être débattue sans doute ces jours-ci. Je ne pourrais pas anticiper quels vont être les points difficiles. Mais on sait déjà par la dernière session de négociation que la question des institutions électorales semble être assez difficile pour le gouvernement. Et c'est critique parce que sans les garanties institutionnelles, on n'aura pas d'élection crédible. Pour le gouvernement, le rétablissement des institutions est assez dangereux dans son projet de radicalisation.
Colette Capriles de l'équipe technique de l'opposition vénézuélienne, la MOUD, elle répondait à Véronique Guémard. Et la reprise des discussions entre les autorités vénézuéliennes et l'opposition, c'est également à la une de votre revue de presse, Romain Lemaresquier. Une deuxième session de négociation qui doit cette fois permettre de trouver un accord. En tout cas, c'est ce qu'espère le ministre dominicain des Affaires étrangères.
Oui, c'est ce qu'il explique dans les pages d'El Nacional. Et selon Miguel Vargas, le gouvernement dominicain est prêt à tout mettre en œuvre pour que les deux parties trouvent un accord, je cite, stable, pacifique et démocratique qui bénéficie à tous les Vénézuéliens. Dans les pages du quotidien, le président dominicain Danilo Medina explique qu'aujourd'hui jeudi, c'est une réunion de travail qui est prévue et que demain vendredi, les vraies discussions reprendront. Selon Danilo Medina, tant que l'ensemble des questions n'aura pas été abordé, aucune des parties présentes ne rendra publique les avancées de ces discussions car chaque sujet discuté a une incidence sur d'autres sujets. Des discussions qui s'annoncent donc compliquées, même si du côté des autorités dominicaines, c'est l'optimisme qui prédomine, estime El Nacional.
Un optimisme qui ne domine pas dans les rangs de Voluntad Popular, l'un des partis de la coalition de l'opposition.
Juan Andrés Mejía, l'un des dirigeants de cette formation politique, a tenu à prévenir ses compatriotes hier lors d'une conférence de presse, détaille Ultimas Noticias, quotidien proche du pouvoir. Si ces discussions s'avèrent être un échec, son parti descendra à nouveau dans les rues, défendre les droits des Vénézuéliens, se battre pour de la nourriture, des médicaments et du travail. Ces discussions, selon lui, sont le meilleur chemin pour trouver des réponses aux problèmes du pays. Mais son parti ne s'agenouillera pas, pardon, et n'hésitera pas à redescendre dans la rue si nécessaire.
Et on part en Colombie, Romain, où les autorités discutent également avec la guérilla de l'ELN, des discussions qui semblent désormais au point mort.
Oui, la première tempête de 2018, titre ce matin Les Spectateurs en une de son édition. Hier, mercredi, le président colombien Juan Manuel Santos a annoncé avoir rappelé son négociateur en chef, actuellement à Quito, en Équateur, où se déroulent ses discussions avec l'armée de libération nationale, l'ELN, la dernière guérilla active de Colombie. Raison invoquée de ce rappel, la multiplication des actes violents de la part de l'ELN. Et alors que 2018 est une année électorale en Colombie, les autorités ne peuvent tolérer de tels actes, prévient El Tiempo, pour qui, si le gouvernement laissait faire, ce serait en quelque sorte un aveu de faiblesse qui pourrait profiter à la droite colombienne. De son côté, l'ELN, selon El Espectador, appelle les autorités à se rasseoir et à reprendre les discussions. L'ELN qui n'a pas mentionné la recrudescence des attaques qualifiées de terroristes par le président colombien.
Au Pérou, deux jours après la formation d'un nouveau gouvernement, les critiques pleuvent.
Dans les pages du quotidien Pérou 21, trois politologues dénoncent ce que le président péruvien appelle un gouvernement de réconciliation. Au contraire, selon eux, ce nouveau gouvernement démontre l'isolement politique du président, un gouvernement qui ne cherche qu'à justifier la grâce accordée à l'ancien président Alberto Fujimori, mais qui n'a aucun objectif commun, aucun cap à suivre, estiment ces trois analystes.
L'affaire de la grâce présidentielle accordée à Alberto Fujimori ne passe pas du tout dans l'opinion péruvienne.
Oui, et d'ailleurs, aujourd'hui, une marche nationale est prévue pour dénoncer ce que de nombreux Péruviens qualifient d'impunité. Et Verónica Mendoza, la dirigeante de la formation Nuevo Pérou, sera parmi les protestataires. Dans les pages de la Repubblica, elle explique sa démarche. Nous n'acceptons pas que dans notre pays on libère des délinquants, des assassins. Nous n'acceptons pas que les corrompus passent des accords pour éviter la justice. Nous n'acceptons pas que l'on se moque de nous en appelant ce gouvernement un gouvernement de réconciliation. Ces marches prévues dans l'ensemble du pays devraient être très suivies selon le quotidien La Repubblica.
Et selon la presse équatorienne, Julian Assange, qui se trouve au sein de l'ambassade de l'Équateur à Londres pour échapper aux poursuites aux États-Unis et en Suède. Et bien le fondateur de Wikileaks aurait obtenu hier la nationalité équatorienne. Julian Assange est réfugié dans cette ambassade au cœur de la capitale britannique sans pouvoir en sortir sous peine d'être arrêté, et ce depuis 2012. Enfin, direction Washington, Romain, avec cette question qui revient régulièrement à la une des journaux. Donald Trump sera-t-il auditionné par le procureur spécial Robert Mueller dans l'affaire des ingérences russes ?
Oui, c'est la question que tout le monde se pose depuis que le procureur procureur Mueller a laissé entendre qu'il pourrait solliciter prochainement un entretien avec le président. Et les avocats de Donald Trump ont pris les devants, c'est à lire dans Politico. Le site d'information imagine dans cet article comment ces préparatifs pourraient se dérouler. Une chose est sûre, le président n'est pas un client ordinaire. Il a 70 ans, un ego inébranlable mais parfois fragile. Il n'a pas d'approche analytique et n'aime pas se perdre dans les détails. Préparer Donald Trump à un entretien avec le procureur Mueller doit provoquer des sueurs froides chez ses conseillers. Sans aucun doute, Trump sera coaché à travers des entretiens et comme on ne peut pas attendre de lui qu'il mémorise beaucoup de données, il faudra lui donner des instructions simples et les répéter souvent, écrit Politico. Ce qui est vu comme une faiblesse pourrait se révéler comme un atout face au procureur, répondre de façon courte et concise. Donc, résume Politico, le meilleur conseil à lui donner, c'est « keep it simple », c'est-à-dire « faites simple ».
Et aussi simple que ses tweets. Pour ainsi dire, merci Romain Lemaresquier, revue de presse à retrouver sur le site internet de RFI.
L'écaille, 106.9 FM.
Et on vous retrouve, Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste en Haïti. Bonjour.
Bonjour.
Le pays commémore demain vendredi le 8e anniversaire du séisme meurtrier de 2010. Comment Haïti se prépare à vivre ce souvenir douloureux ?
Les décorations de Noël du Champ de Mars, la grande place publique au centre de la capitale haïtienne, ont été défaites mercredi, deux jours avant le 12 janvier, 8e anniversaire du séisme de 2010, qui avait causé la mort de plus de 200 000 Haïtiens. Le sapin de Noël, érigé sur la grande cour du Palais National, résidence officielle du président haïtien, a lui aussi été démonté. Vendredi, le président Jovenel Moïse compte poser la première pierre de la reconstruction de ce bâtiment emblématique, détruit par le tremblement de terre de 2010, comme la majorité des sièges des ministères et le centre-ville de Port-au-Prince. Pour marquer le 12 janvier, il y aura une cérémonie officielle du souvenir au mémorial de Saint-Christophe, au nord de Port-au-Prince, non loin des lieux où la majorité des victimes ont été enterrées. Les rescapés vont, sans doute, cette année encore, se tourner vers les églises pour trouver recueillement et réconfort. Comme en 2010, la douleur sera individuelle, le souvenir personnel. Il n'y a pas de grand rassemblement prévu à Port-au-Prince.
Cela fait donc 8 ans, mais est-ce que l'on peut encore voir dans le paysage des traces de ce séisme ? Où en est la reconstruction ?
Oui, les traces du séisme sont encore visibles. Il en sera ainsi des années. 8 ans après le tremblement de terre, la grande région métropolitaine de Port-au-Prince et les villes de Léogane et de Jacmel, zones les plus touchées par le sinistre, se relèvent lentement. Avec le lancement de la reconstruction du Palais national, le président Jovenel Moïse rompt avec la politique de Michel Martelly qui voulait que le dernier sinistré logé sous une tente trouve un meilleur abri avant de reconstruire le siège de la présidence. 8 ans après le 12 janvier, il y a encore près de 60 000 personnes sous abri provisoire, mais en général, la vie a repris son cours dans la grande majorité des rues les plus affectées en 2010. La reconstruction n'est ni générale ni planifiée, mais elle se poursuit sans les aides annoncées, portées par les moyens des uns et des autres.
Hier, c'était l'ingénieur haïtien Claude Prépetit qui faisait la une du Nouvelliste. Cet expert dénonce que 8 ans après ce séisme dévastateur, les autorités n'ont toujours pas pris de mesures pour limiter le nombre de victimes en cas de nouveaux tremblements de terre.
C'est une déclaration très forte. L'ingénieur Claude Prépetit prêche dans le désert depuis des années en Haïti. Avant 2010, il avait prévenu à plusieurs reprises que nous étions à la veille d'un séisme majeur. Il n'a pas été entendu. Aujourd'hui, à la tête d'un organisme d'État sans moyens, il continue de dénoncer les précautions non prises, particulièrement dans le secteur de la construction. On rebâtit, mais pas toujours mieux qu'avant.
Et alors, qu'est-ce qui a changé depuis le tremblement de terre de 2010 ?
Une chose a changé en Haïti depuis 2010. Les Haïtiens sont plus attentifs au mouvement de la terre et sont mieux informés. En l'espace de 48 heures, 2 séismes ont été enregistrés par l'unité de surveillance sismique du Bureau des mines et de l'énergie que dirige Prépetit. Lundi, un séisme de 4.5 sur l'échelle de Richter, au sud de la ville d'Ekaï. Un autre séisme de magnitude 3.9, mardi à 15 km au sud de Port-au-Prince et de Carrefour, sur la même ligne que la faille qui a provoqué le tremblement de terre du 12 janvier 2010, ont été ressentis. Les multiples séismes de faible intensité de ces derniers jours ravivent de mauvais souvenirs. Pour Claude Prépetit, il n'y a rien de nouveau. Haïti est sur un réseau de failles qui bouge. Prépetit déplore que les Haïtiens n'ont malheureusement pas encore décidé de prendre des décisions drastiques au niveau du bâti et de l'éducation pour réduire réellement la vulnérabilité. Pour lui, au moment où l'on cherche à avoir une meilleure connaissance de la sismicité, il faut des mesures de mitigation pour réduire la vulnérabilité des gens. L'objectif et la finalité, c'est de réduire les pertes en vie humaine et en biens matériels, insiste celui qui a passé une bonne partie de sa vie à prévenir les Haïtiens des risques de séisme en Haïti.
Merci Franz Duval. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du Nouvelliste et que vous êtes tous les jeudis sur l'antenne de RFI. À Port-au-Prince, il est 8h25. Le journal de la première, c'est avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Céline.
Les députés des Antilles veulent en finir avec l'indivision, un fléau qui paralyserait la politique du logement en Outre-mer.
Oui, un problème particulièrement récurrent, paraît-il, aux Antilles et en Guyane. Et c'est d'ailleurs un député martiniquais, Serge Letchimy, qui a présenté hier la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et ainsi relancer la politique du logement entravée par le manque de foncier. Une initiative soutenue par la Chambre des notaires de la Martinique. Écoutez Maître Monique Constantin au micro de Jean-Baptiste Anatole. Pour elle, c'est simple, l'indivision, c'est un cancer.
C'est un cancer qui est un frein économique, qui est une nuisance, ne serait-ce qu'une nuisance visible, mais qui est une nuisance aussi et un problème personnel pour ceux qui voudraient faire quelque chose de bien que leurs parents leur ont laissé et qu'ils n'arrivent pas à partager à cause d'un blocage. Nous avons des cas en Martinique et des articles du Code civil qui ne nous permettent pas de détricoter cela.
C'est un problème pour les municipalités?
Mais bien sûr, puisqu'elles voient leur développement économique complètement arrêté. Hein. On a beaucoup donné, je crois, l'exemple de la ville du Makouba, où je ne sais plus la proportion, mais où il y a une proportion inimaginable de biens dans l'indivision.
La proposition de loi vise à remplacer la règle de l'unanimité par une majorité à 51% pour tout acte de vente ou de partage pour les successions ouvertes depuis plus de 5 ans. Un tout autre sujet, en Guadeloupe, le lancement officiel aujourd'hui du Master 2 Valorisation économique et touristique du patrimoine des Caraïbes. Un master qui s'adresse au Bac plus 4, l'académie voulant ainsi renforcer la filière des métiers du tourisme. Joël Raboteur est le référent Master 2 à l'Université des Antilles. Il est au micro de Peggy Robert.
Un module langue et civilisation, hein, qui est relativement important, hein, donc à peu près 92 heures, puisqu'on ne peut pas faire de tourisme sans maîtriser les langues. Et bien sûr, la civilisation des Caraïbes, la géopolitique des Caraïbes, de connaître un peu notre environnement, puisque l'autre qui vient a besoin de connaître la culture et ce qui se passe dans la zone. Vous avez des modules de management et de gestion pour 48 heures, avec du droit international, donc de la gestion des ressources humaines, du management de la qualité, les sciences sociales, la dynamique des pratiques touristiques. Vous avez également des matières optionnelles. Et nous, on a choisi, dans ces matières optionnelles, un supplément de diplôme qui sera la gastronomie, créole, rhum et tourisme, pour un volume horaire quand même de 40 heures. Donc, ils auront des connaissances en gastronomie, en patrimoine immatériel, en patrimoine bâti, patrimoine des paysages et du monde biophysique. Donc, ils auront quand même des connaissances assez approfondies sur l'histoire de la Guadeloupe.
14 étudiants sont inscrits dans ce module qui commence lundi prochain et qui va s'étaler sur 12 mois. Bon après-midi Céline, à demain.
Bon après-midi Benoît Ferrand. Le journal d'Haïti et des Amériques, c'est maintenant terminé pour aujourd'hui. C'était Jonathan Brady à la réalisation. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. En attendant, il y a évidemment le site internet pour retrouver les informations développées dans cette édition. Il y a également la page Facebook avec peut-être un petit commentaire et un petit pouce bleu pour un petit like. Passez une excellente journée à l'écoute de la Radio du Monde.
Venez découvrir le spectacle Kalakuta République du chorégraphe burkinabé Serge Aimé Koulibaly. Hommage au musicien nigérian Fela Kuti, le spectacle évoque le lieu utopique de la République de Kalakuta. Six interprètes exceptionnels dansent Fela, son engagement et sa vitalité dans un esprit de fête et de transe. Kalakuta République du 16 au 19 janvier au Théâtre Le Tarmac. Plus d'informations sur letarmac.fr en partenariat avec RFI.
RFI parle au monde en français, mais aussi en 14 autres langues. Écoutez RFI en espagnol.
Sintonice cada día nuestros programas en español. Entérese de la actualidad latinoamericana.
Écoutez RFI en espagnol à Saint-Domingue sur 90.9 FM et sur es.rfi.fr.